Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Alors, bonsoir tout le monde. Ici Gaëtan Gosselin à l'antenne de La Croche-Oreille, émission du dimanche 6 mars 2016. Alors, ce soir, on fait une émission en l'absence de Jean-Pierre Gay, qui a pris congé, qui fait une sorte de... qui prend un congé sabbatique d'une soirée, je dirais. Alors, Jean-Pierre, je te salue bien fort. Alors, d'entrée de jeu, pour vous rappeler qu'on peut récupérer, écouter, réécouter à nouveau les émissions de La Croche-Oreille depuis, gardées sur notre site web depuis janvier 2014. Alors, on peut retrouver toutes ces émissions sur l'art sonore sur le site lacrocheoreille.wordpress.com. Alors on y retrouve évidemment le descriptif des émissions, les pièces qui ont paru et évidemment un balado diffusion qui vous permet de réécouter à la fois les pièces ou les entrevues. Ce soir, ben on a le grand privilège d'accueillir Michal Belinsky qui était accueilli il y a quelques semaines par le Mois Multi. Elle ouvrait, je dirais, les festivités du Mois Multi avec un spectacle intitulé Gloria. Un projet d'opéra techno, on pourrait appeler ça comme ça, techno multimédiatique, conçu autour d'une prestation musicale assez inusitée, au sens où on se retrouve dans un contexte d'opéra immersif, avec des images, avec des sonorités d'ambiance, des sonorités recherchées, et autour duquel va prendre forme de sa performance, de cette performance musicale assez exceptionnelle de Michal Belinsky. Qui est Michal Belinsky? Eh bien, c'est une performeuse, c'est une chanteuse, c'est une musicienne qui a réussi à nous émouvoir durant ce Mois Multi. Et alors voilà, nous l'avons reçue en entrevue et ça nous fait plaisir ce soir de vous la présenter.
Thank you. Alors, Michael, ton spectacle, c'est comme une sorte de voyage auquel tu nous proposes, un voyage dans un univers imaginaire, quasiment spirituel.
Tout à fait. Tout à fait. On parcourt différents paysages, différents états pour, j'imagine, aller vers, disons, une nouvelle forme, une transformation.
Il y a une idée de beauté aussi dans tout ce que tu présentes, à la fois là, par la voix, par les images. Est-ce que cette espèce d'idéal de beauté, c'est un peu ça qui est un peu l'aboutissement de ce voyage-là?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, on passe par, c'est ça, toutes sortes de périodes, d'états, comme je disais, de doutes pour découvrir, au fond, la beauté extérieure, mais surtout intérieure.
Le choix de ces images-là, c'est des images que tu es allé chercher ou c'est des paysages que tu as déjà côtoyés?
Ah, ben, c'est une bonne question. Y a de l'image de synthèse comme de l'image d'archive. Donc, l'un répond à l'autre, là, et y a des paysages magnifiés aussi, de montagnes, mais qui deviennent à un moment donné des pyramides. Donc, on est entre le rêve, je dirais, puis la réalité.
C'est comme des lieux qui te parlent, qui t'attirent, mais sans avoir un contour fixé.
Voilà.
Préparer un spectacle comme ça, ça doit être assez particulier, parce qu'on n'est pas dans un spectacle qui est classable dans un genre, on n'est pas dans le rock, on n'est pas dans... c'est pas du New Age non plus, il y a quelque chose de très, je dirais, marginal dans ça. Comment t'en es venu à proposer ce type de spectacle-là?
Ben, je travaille d'instinct, donc pour moi, c'était naturel de mélanger tout ça. C'était l'occasion aussi, enfin, de le faire, parce qu'on a tendance à cloisonner les choses... ne serait-ce que pour des demandes de sub ou même dans les disciplines, les formations, tout ça, là, on a tendance à se spécialiser beaucoup et à écarter rapidement là, la multidisciplinarité. Et puis, on a juste suivi notre instinct. Dans le fond, on est parti de chansons et de poèmes. Puis, tout ça s'est tissé très lentement avec beaucoup d'attention. Et je dirais que on en arrive avec le... Ce qu'on voit, le spectacle, est une conséquence du travail de création.
Tu travailles avec d'autres personnes, mais les images qui sont là, c'est ton choix d'image à toi?
Alors, disons que Sophie Devirieux, avec qui je travaille, qui est dramaturge, et moi, on a conçu l'idée de ce qu'on voulait. Puis après, on est allé voir Myriam Boucher qui fait de la vidéo. Et ensemble, on a discuté de comment on pouvait... on a discuté essayer. Mais c'est ça. Disons qu'on a eu l'idée, puis après, on a trouvé la façon de le faire.
Puis les images, c'est des images de lieux anciens. On n'est pas dans la modernité. C'est comme si c'était une espèce de passage, un retour dans le passé.
Oui, c'est une évocation de la mémoire humaine, que ce soit les anciennes civilisations ou d'anciens lieux originels. On est surtout dans le bassin méditerranéen, mais on essaie de ratisser un peu plus large aussi là. Mais c'est en fait un constat d'impermanence, que ce soit que ça ait 2000 ans ou que ça en ait 200 d'âge. L'important, c'est qu'on constate avec ces images-là que les choses passent. On constate l'impermanence, on constate que, voilà, le temps avance. Et les choses qu'on aime ne durent pas nécessairement.
La mort et la naissance et la fin et le départ et la destination et la quête et la pause et la fin, le départ et la destination et la quête et la pause. satisfaction, le commencement et la mort.
Michael, au plan de la voix, il y a quelque chose qui est assez particulier. On n'est pas dans une voix qu'on entend dans des cérémonies ou dans des lieux je dirais, religieux. C'est une voix planante, aérienne. C'est une voix qui voyage beaucoup. Donc, l'idée de voyage, elle est présente. Mais comment t'en es venu à travailler ta voix pour qu'elle offre ce qu'on a entendu?
Mm-hmm. Alors, d'instinct, j'ai toujours travaillé la voix de manière théâtrale. Je viens aussi un peu du milieu du spoken word. Donc, cette idée de jouer sur les rythmes et les sonorités. Et puis... le plaisir de chanter amène à explorer, puis le fait d'avoir travaillé de la voix de manière théâtrale, d'avoir des techniques vocales pour comédien. J'ai fait un bac en interprétation théâtrale. J'ai aussi suivi des ateliers là, d'expression vocale. Je suis allée au Danemark chez Eugenio Barba, et eux, les acteurs, ont développé toute une pédagogie autour de comment ils appellent ça, des partitions vocales. Mm-hmm. Donc, avec un training physique particulier, on en arrive à pousser sa voix, à exprimer d'autres choses là, que ce qu'on est habitué d'entendre. Puis donc, la voix devient un personnage. La voix dit quelque chose et fait quelque chose.
Et la voix, elle était au centre du spectacle parce qu'on est disposé en rond, un peu comme dans une yourte quelque part. On est déjà en voyage nous-mêmes, on est assis par terre. Donc, tu te retrouves en plein centre du monde, dans le sens des spectateurs. Ça te convient bien? Tu étais bien à l'intérieur de ça, de te savoir très près des gens et non pas sur une estrade à l'avant?
Oui. J'ai pas... Je crains pas d'être sur scène. Pour moi, que je sois à un mètre ou à côté, en tout cas, bref, ça reste une rencontre d'une personne face à une autre personne. Donc, il y a pas. Ça me plaît même davantage que d'avoir cette espèce de frontière à laquelle on est habitué, c'est-à-dire la scène et le public qui regarde et tout ça. Je suis plus intéressée à créer des lieux de rencontre véritables.
Comme les voyageurs dans le désert, partout qui se rencontrent autour d'un feu, ou dans une yourte, parce qu'il y a vraiment cette image de la yourte, moi, qui m'est passée par la tête quand j'ai vu ça, puis tu étais au cœur de ça, puis tout le monde assis sur des coussins. C'est la rencontre de gens qui se connaissent pas dans un même petit lieu.
Voilà, tout à fait. La yourte aussi, c'est ça, elle a ce trou en haut, là, qui... je ne sais plus si c'est pour la fumée ou quoi que ce soit, là, mais c'est ça, il y avait cette idée-là. On a même envisagé, je crois, même d'avoir une... on pourrait avoir notre propre yourte, puis ça serait chouette, tout ça. Ça fait aussi référence, j'imagine, à cette espèce de cercle originel, là, les structures mégalithiques comme Stonehenge, qui sont les architectures sacrées qui existent depuis longtemps. Il y a une recherche aussi sur ça... Sur ce sujet-là, en cherchant le bon espace, la bonne scénographie, on se disait, on aimait ça, les références anciennes.
Il y a l'idée du temple aussi qui est omniprésent dans ce travail-là. Je reviendrai sur l'approche multidisciplinaire pour t'entendre parler de cette complicité avec d'autres créateurs dans ce projet-là. Comment ça se passe là, à partir du moment où il y a une idée qui jaillit? Comment ça se passe avec les autres créateurs? Et je devrais dire créatrices parce que il y a des créatrices aussi. De toute façon, j'utilise le féminin.
C'est vrai qu'on est surtout une équipe de filles. Comme je disais, il y a un noyau, là, c'est Sophie et moi. Et puis, nous, on a des rencontres dramaturgiques ensemble, on fait des lectures. Et c'est vraiment très large, là. On brasse beaucoup d'idées, on essaie de faire des liens, puis... on essaie d'arriver avec une idée claire de ce qu'on aimerait, mais une idée est jamais bonne ou mauvaise, et tant qu'elle n'est pas essayée, ça reste du domaine du fantasme. Donc, c'est ça. Mais très vite, on a intégré la vidéaste, Myriam Boucher, pour qu'elle puisse collaborer elle aussi, puis arriver avec ses images aussi. Dans le fond, nous, on suggérait, par exemple... une forêt luxuriante, puis c'est elle qui arrivait avec l'image de forêt. Si c'était pas tout à fait ça, on creusait encore un peu plus, puis tout le monde se mettait finalement à chercher, puis à donner ses idées.
Thank you.
Michael, j'étais curieux de savoir, ou de connaître, je devrais plutôt dire ça comme ça, connaître tes influences sur le plan musical. Parce que, bon, à première vue, on a tout de suite amené sur le terrain de la spiritualité, tout ça. Mais il reste qu'en en écoutant bien, on se dit, ah, il y a des influences qui sont présentes. J'aimerais t'entendre parler de ça.
Oui. mes influences sont vraiment très vastes. Là, j'écoute de la musique depuis l'enfance. Donc, c'est très, très, très large, mais je dirais que entre le hip-hop puis la musique classique, là, les chants coraux, la polyphonie, bref, tout ça, comme la musique électronique minimale, là, j'écoute énormément de musique.
Est-ce que dans ta famille, il y avait des gens qui écoutaient aussi beaucoup de la musique, que tes parents ou des gens que tu connais autour de toi?
Oui, ben mon père est musicien, donc il y a toujours eu comme des nouveaux disques à écouter, puis autant que chansons françaises ou la musique plus expérimentale. Mais ouais, c'est ça, puis c'est les amis aussi, le fait de consommer beaucoup de musique. Ado, j'allais chez des disquaires, j'étais curieuse. Je le suis moins maintenant, je m'accroche plus à ce que j'aime, puis mais j'ai des amis qui continuent de me donner de la musique, tout ça, fait que je continue de me cultiver, là, faut jamais arrêter ça.
Quand je te parlais dans l'oreille, que je faisais des beaux poèmes. Tu disais rien, t'écoutais. Comme si j'allais sauver les meubles, comme si c'était vrai. Quand je te parlais dans l'oreille, please.
lame d'un violon, oseriez-vous relever les empreintes digitales?
89.1.
C'est une buée. Elle vous dit des choses formidables. C'est de la très, très, très grande poésie. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de sophistication. Mais par contre, à d'autres moments, elle s'enflamme.
C'est KRL.
Et quand on parle du souffle, qui peut être violent ou qui peut être le murmure d'une brise légère, c'est tout autre chose. On n'est pas dans la même ambiance.
Objectif, 40 000 $. Le Radiothon de CKRL aura lieu les 1er, 2 et 3 avril prochains. Posez un geste de soutien concret pour votre radio. Faites un don de 20 $ et plus ou procurez-vous votre carte de membre de 25 $ avant le 1er avril 17h et courez la chance de gagner le prix spécial pré-Radiothon et le prix spécial Membership. Pour renouveler votre carte ou faire un don, passez-nous voir à CKRL au 405 3e Avenue entre 9h et 17h30, par téléphone au 88 640 25 75 poste 201 ou sur ckrl.qc.ca avec le service sécurisé PayPal. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. L'Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de Jean-Marie Zéitouni, est heureux de vous présenter le mercredi 9 mars à 20h au Grand Théâtre de Québec, un programme illustrant l'effervescence de la création musicale parisienne du 19e siècle. Au programme, des extraits de Carmen, de L'apprenti sorcier et l'étonnant concerto pour violoncelle de Lalo. Ce concert sera présenté le lendemain en matinée. Détails sur osq.org. Hydro-Québec, partenaire de saison.
Et je me suis dit, le Québec n'est peut-être pas encore un pays au niveau juridique, mais est encore capable de rêver. Et ça m'a fasciné. Je crois, en tant qu'historien, qu'on est dans un espace cruel.
Les matins éphémères, en semaine, dès 7h.
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Alors voilà l'accroche-oreille qui se poursuit avec cette entrevue qu'on a fait réaliser il y a quelques semaines avec la performeuse Mikhaïl Bilinski dans le cadre d'un magnifique projet présenté dans le cadre du Mois Multi, un opéra multimédiatique, multidisciplinaire intitulé Gloria. Avant de poursuivre, je voulais attirer votre attention, c'est le Mois de la poésie à Québec en mars. Et il y a le 17 et 18 mars prochain une activité qui s'intitule « EdSec, écrire à haute voix ». EdSec, qui est une figure légendaire, je reprends un peu les termes du programme, une figure légendaire de la poésie sonore, connue pour une performance qui s'intitule « Autour de Vaduz », qu'on va retrouver, je dirais, si vous faites une recherche sur le web, vous allez retrouver cette pièce magnifique. Alors, ça se passe à la Maison de la littérature, les 17-18 mars, et il y a des activités avec des personnalités du monde littéraire. Bon, il y a tout de même une activité le 17 mars qui est animée par Simon Dumas d'Horizon, mais le 18 mars, c'est Richard Martel et Philippe Franck, deux spécialistes, je pense, de Bernard EdSec qui vont animer la soirée. Donc, une soirée à ne pas manquer. Alors, poursuivons cette belle aventure avec Mikhaïl Bilinski qui nous séduit avec cette voix magnifique, cette performance qui fusionne poésie, chant sacré dans un esprit de grande spiritualité, de recueillement, puis on pourrait même dire de grâce.
«
On sait que dans le répertoire qui est présenté dans la pièce Gloria, il y a P.G. Harvey qui en fait partie. J'aimerais ça que tu nous rappelles les pièces qui sont présentées dans ce spectacle, parce que ça aussi, ça fait partie, je dirais, du mystère, parce qu'on est, on se sent un peu familier avec les chants, mais aussi pas très familier. On est sur comme deux registres. Et ça, j'aimerais ça, c'est ça, tu nous rappelles ces pièces.
Alors pour les énumérer dans l'ordre, ça commence avec un Kyrie, qui est un chant religieux des messes chrétiennes, que ce soit occidentales ou orientales, et Kyrie Eleison, qui veut dire Seigneur, prends pitié. Là, la messe commence avec ça. Ensuite, on a My Heart's in the Highlands de Arvo Pärt, qui est Arvo Pärt compose depuis plusieurs décennies, mais c'est une chanson qui est relativement récente, qui date début 2000, et c'est un texte, je pense, médiéval, qui a été, c'est ça, mis en chanson par M. Pärt. Et voilà. Ensuite, il y a un chant bulgare qui vient du disque Le mystère des voix bulgares, donc il s'appelle Priturice Planinata. Ensuite, il y a un Gloria de Rachmaninov qui vient aussi d'un disque de chants sacrés là, qui s'appelle Sacred Treasures, des grands cœurs là, à vous couper le souffle, qui viennent de Russie. Et après, il y a Nurinder Solenop, qui est un hymne traditionnel danois, qui est aussi du Moyen-Âge. Et puis, finalement, on en arrive à cette chanson de P.G. Harvey qui est In the Dark Places, que j'ai adaptée en français. Reste-t-il des golfes gelés, de l'amour, de Carthage et Mycène, de Loulan et Dis?
À quoi ressemble le sort des légendes quand l'époque achève de retenir ce qui ne dure pas? Que reste-t-il encore à défaire?
Michael, au-delà de ce spectacle que tu nous as présenté, tu as aussi d'autres projets musicaux. Peux-tu nous en parler un peu?
Oui, alors peut-être pour commencer, je pourrais parler des conceptions musicales que j'ai fait au théâtre et que je fais toujours et qu'il y en a d'autres à venir aussi. C'est mon travail musical le plus important dans les dernières années. J'ai collaboré sur plein de pièces à Québec et à Montréal, autant là, dans des théâtres institutionnels que dans avec de la relève. Et puis, c'est un travail surtout électronique, de composition là, électronique. Puis, j'ai travaillé sur 1984. Donc, ça, par exemple, pour prendre ce spectacle-là, on a travaillé beaucoup de manière kinesthésique avec la musique pour vraiment le bien, symboliser Big Brother, mais musicalement.
Qu'est-ce que tu veux dire par kinesthésique?
Alors, ça c'est un mot qui revient souvent là, quand je parle de mon travail en musique électronique, là, c'est d'aller dans le fond... par des jeux de son, de volume, de fréquence, là, d'aller trouver le spectateur de manière physique. Là.
OK.
Ouais.
Le mouvement de le spectateur.
Oui, c'est ça, que le spectateur sente les vibrations de la musique, puis que ça influence son écoute du spectacle.
Thank you. Il y a d'autres projets aussi, Mickaël?
Oui, mais j'ai aussi un projet de chanson plus électro qui n'est pas développé encore. Là, il n'est pas sur, sur disque, mais je le travaille depuis des années. Là, je fais des concerts de chansons électro. Là, c'est un projet qui s'appelle Josha. Et
ça parle de quoi?
Ben, c'est, ce sont des chansons qui tournent un peu autour des mêmes thèmes. Là. De la lumière, de la transcendance, de la beauté. Mais c'est des chansons qui s'attardent à des moments précis. Une musique plutôt impressionniste, mais avec beaucoup de poésie dans les paroles.
Et est-ce que c'est... je t'écoute, j'avais tendance à dire, est-ce que c'est un peu autobiographique, ce travail de la chanson? Puis même, j'irais plus largement, mais ce travail-là, comme celui de Gloria, par exemple, est-ce qu'il y a un aspect, bon, je dis autobiographique, mais qui est très, très proche de ta personnalité, de tes, comment je dirais ça, de tes émotions singulières, j'imagine?
Oui, c'est exactement ça. Oui, ben c'est ça, j'y vais de manière plus profonde là, dans le ressenti, le monde des émotions. Et, oui. Et puis, c'est ça, la parole est plus présente et la voix est... c'est ça, c'est un peu plus pop, je dirais, mais ça reste quand même marginal encore. Là, parce que la musique électronique, c'est pas évident. C'est soit on fait de la pop électro ou soit on fait... d'électro ambiant là dans la tête des gens où on fait l'électronique de dance floor là, l'électronique qui fait danser le monde. Fait que je me situe vraiment encore dans la craque entre ces trois affaires là.
Est-ce que tu es instrumentiste ou tu travailles avec les machines là, les machines électroniques? Parce que je t'écoute, c'est toujours un peu un mystère, mais est-ce que la musique instrumentale est dans cet environnement-là? Est-ce que tu maîtrises un instrument plutôt qu'un autre, ou encore tu glanes les nouvelles modalités de création sonore?
Alors, j'ai joué beaucoup d'instruments, puis j'ai décidé vraiment de me perfectionner sur la voix. Donc, la voix reste pour moi mon instrument. Et après, je m'amuse sur des logiciels. Mais je dis des logiciels, il y en a un seul, c'est Machine de Native Instrument, qui vient avec un séquenceur. Puis je fais des beats, puis je peux créer des ambiances avec ça. Et ça se résume à ça, là. Je m'aventure pas plus que ça dans l'aventure sonore. Mais j'essaie quand même de trouver des sonorités en lien avec la voix. J'aime beaucoup créer des ambiances où électronique et voix, donc organique et numérique, peuvent se retrouver.
Donc, ton instrument, c'est vraiment la voix. Il n'y a pas de guitare ou quoi que ce soit d'autre.
C'est ça, parce que en termes... Ben, j'ai... Ouais. Oui, c'est vraiment la voix. Je ne joue plus vraiment de guitare. J'ai joué du violoncelle, la trompette. Mais c'est ça, ça a été épisodique dans ma vie. Là. C'est plus actuel. Et l'instrument, en termes de potentialité d'interprétation, c'est vraiment la voix.
Alors, Mickaël, quels sont les principaux projets qui sont devant toi?
Alors, prochainement, dans 2 semaines, en fait, il y a un spectacle qui aura lieu dans l'Église du Jésus qui réunit paroles, poésie et chants sacrés. Donc, je m'occupe de l'aspect chants sacrés, vous devinerez. ça va être super. Dans une église comme ça, ça va être avec, en collaboration avec Ivy. Et puis, on sera accompagné du trio Jérôme Beaulieu. Donc, ça va être une belle rencontre encore là qui va être axée sur la foi et la poésie, mais le sacré à travers, je pense, l'art de créateur de la parole, de l'expression. Voilà. Ensuite, il va y avoir d'autres conceptions musicales. Je travaille toujours avec, je m'allie toujours avec des nouvelles équipes. Il y a des spectacles qui s'en viennent. Notamment Photosensible au Théâtre Prospero. Il va y avoir d'autres choses aussi pour la saison prochaine. Et j'ai des projets... j'ai un nouveau projet là, de création multidisciplinaire dans lequel... c'est tout nouveau, là, c'est encore vraiment embryonnaire. Mais ça va être un projet encore où il va y avoir performance dans une installation immersive. Et je pense que je vais aller plus vers le déambulatoire cette fois-là. Donc, cette fois-ci, ce ne sera pas le public qui va être immobile, il va se déplacer.
Puis, il n'y a pas de disque.
De disque?
Oui, de disque, non.
Pour le spectacle Gloria?
Non, tout autre.
Probablement pour... peut-être que je vais mettre les chansons de Gloria sur disque. Sinon, non, c'est compliqué faire un disque. je voulais faire un disque avec Joshua cette année, là, en 2016, mais ça reste à voir.
Ben, merci beaucoup d'être passé par chez nous.
Ça m'a fait extrêmement plaisir.
Thank you. quelque chose dans nos choix. Il y a que c'est plus que ça pour moi. Les effets se fondent en nous en même temps que le sens s'accorde à notre voix. À notre voix, faire soit tu penses que c'est sans importance, soit tu penses à l'incidence. Ça ne se dérobe pas sous tes doigts, même si on sait qu'il y a des chances qu'on s'en rappelle pas. Mais fais au moins fait ce qui se doit. Ce qui se doit. Y'a rien à redire de nous, on s'accroche à sa raison. S'accroche aux oraisons, s'accroche à l'horizon. Y'a rien à retenir de nous, on s'accroche à sa raison. S'accroche aux oraisons, s'accroche à l'horizon. Y'a rien à retenir de nous, on s'accroche à sa raison. S'accroche aux oraisons, s'accroche à l'horizon. Y'a rien à retenir de nous, on s'accroche à sa raison. S'accroche aux oraisons, s'accroche à l'horizon.
Eh bien, voilà ce qui complète la croche-oreille pour cette semaine. Alors, on remercie Michael Belinsky pour cette entrevue. Et Jean-Pierre Gaëtan Gosselin, on vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.